I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais boudé son goût prononcé pour le mauvais esprit, le nihilisme virulent et l'absurde à tout craint, puisque le monde s'enfonce chaque jour un peu plus inexorablement dans une folie frénétique. Autant se laisser aller et embrasser toute la sordide irréalité dans laquelle nous baignons collectivement. À ce titre, une série peut faire figure d'emblème, de totem expiatoire jouissif du marasme actuel. Cette série, c'est Rick et Morty, dont la troisième saison vient de débarquer sur Netflix et à laquelle nous allons consacrer cette émission en compagnie du duo intergalactique réuni ici autour de la table à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
Je m'étrangle, Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane.
Salut Thomas.
C'est l'émotion, c'est Nos Ciné, épisode 107 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
C'est l'émotion de vous retrouver tous les deux, messieurs. Rick et Morty, si vous n'avez jamais approché la chose, et c'est un tort, il s'agit donc d'une série animée créée par Justin Roiland et Dan Harmon, le second à qui on doit déjà l'excellente série Community. Rick et Morty donc sont les deux personnages principaux, Rick Sanchez et son petit-fils Morty Smith. Rick est un savant, l'homme le plus intelligent de la galaxie, et il embarque son petit-fils à travers les dimensions et les réalités dans des aventures où l'absurde est roi. Difficile de résumer les trois saisons qui les ont vus tout à la fois sauver la planète et causer sa perte bon nombre de fois, avec des instants déjà inscrits tout en haut du panthéon de la pop culture récente. Des personnages inoubliables qui irriguent également cette troisième saison qui voit notamment Rick se transformer en cornichon pour devenir Pickle Rick. C'est sans conteste l'un des plus beaux moments de télévision de ces 20 dernières années.
I turned myself into a pickle, Morty! Boom! Big reveal, I'm a pickle. What do you think about that? I turned myself into a pickle! What are you just staring at me for, bro? I turned myself into a pickle, Morty.
And?
And? What more do you want tacked onto this? I turned myself into a pickle and 9/11 was an inside job?
Was it?
Who cares, Morty? Global acts of terrorism happen every day. Here's something that's never happened before. I'm a pickle! I'm Pickle Rick!
J'ai personnellement rarement autant ri. J'ai vu 10 fois l'épisode hein, depuis qu'il est sorti. Mais Rick et Morty, c'est quand même bien plus que ça, n'est-ce pas, messieurs? Rafik, tu veux commencer?
Oui.
Nous parler un petit peu de cette série. On avait déjà consacré un extra il y a très longtemps à la première saison de Rick et Morty.
Pour annoncer à nos auditeurs l'arrivée du Messie. Ouais,
voilà,
tout à
ça.
Fait. Et donc, on confirme bien que l'évangile a bien eu lieu. on avait quitté en fait les personnages à la fin de la saison 2 avec le personnage de Rick qui réalisait enfin ce qu'il était, c'est-à-dire une grosse merde, on peut le dire comme ça, quoi, c'est-à-dire l'homme le plus intelligent de la galaxie et
l'homme le plus égocentrique de la
galaxie. Voilà, et aussi le plus égocentrique. Du coup, on se demandait effectivement qu'est-ce qui pouvait bien devenir l'arc de cette
sachant
nouvelle
qu'à,
saison.
Sachant qu'à la fin de la saison 2, donc il se retrouvait enfermé par la Fédération galactique dans une prison haute sécurité, machin.
Tout à fait. Dont il se libère dans le premier épisode de la saison 3 d'une façon à la Rick, c'est-à-dire d'une
formelle manière.
Voilà. Mais ce premier épisode donc qui a été mis à disposition le 1er avril oui. Donc déjà comme une
blague,
sorte de blague,
ouais.
Chose intéressante, donc se terminer par évidemment un monologue nihiliste comme Rick en a le secret, c'est-à-dire en gros qu'il avait fait tout ça pour ça et qu'il allait faire tout ça pour ça dans un seul but qui était de ramener dans le commerce la sauce chez Swan de McDonald's qui avait été faite pour le film Mulan à la fin des années 90. Et ce qui a été intéressant, c'est que du fait de la popularité croissante de la série qui revient de loin, hein, qui est partie de nulle part
zéro, ouais.
Pour devenir probablement la série la plus chanté par les internautes anglo-saxons actuellement. McDo s'est évidemment jeté sur l'occasion pour ressortir son truc. Il y a eu des ruptures de stock dans des magasins avec des fans qui ont fait une espèce de mini scandale. Et là, on s'est retrouvé tout de suite devant, et je pense que les auteurs ont été forcément sensibles à ça, devant une problématique qui est qu'une série absolument et totalement intégralement nihiliste, en tout cas qui joue beaucoup de la question nihiliste de cette génération, se retrouve avec avec des fans qui se comportent comme finalement plus comme les personnages secondaires de la série, c'est-à-dire comme un Jerry qui est le mari un peu loser de la famille, que émulé par le nihilisme de Rick, qui évidemment s'en fout complètement de la sauce Szechuan. Ça n'était qu'une mauvaise blague pour finalement qui résumait sa son leitmotiv, qui est personne n'existe volontairement, personne n'appartient à un endroit, tout le monde va mourir et Dieu n'existe pas. Donc de passer de ça à on va faire un scandale parce qu'il y a pas de sauce chez McDo, c'était et c'est
ça prouve qu'ils ont tristement raison sur l'état de l'humanité
et sur une partie de leur fandom en fait. C'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression que cette saison là elle joue beaucoup plus sur la réception de la série que les
précédentes.
En fait, le développement.
Parce que le phénomène a pris de l'ampleur depuis aussi.
C'est ça. Le développement de l'arc narratif du personnage de Rick, c'est-à-dire que dans cette saison, il se révèle véritablement être un vilain. Et il devient même un super vilain, d'ailleurs, dans un épisode qui s'appelle Vindicator 3, dans lequel Morty donc, est en extase devant un groupe de super-héros qui sont des simili-Avengers. Mais qui restent des super-héros, c'est-à-dire un peu con-con, et qui ont besoin du génie absolu d'un Rick pour parvenir à leur fin. Ils sont donc, ils l'aiment pas, mais ils se sont débarrassés de lui pendant une mission. Le résultat, c'est qu'ils ont génocidé une planète accidentellement, et donc ils le font venir. Et lui va les mettre à l'épreuve, va leur créer une espèce de piège à la Jigsaw dans la série des Saw. Et dans cet épisode, il se révèle véritablement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un super vilain par rapport à des super-héros. Donc la question de l'héroïsme, elle est posée de façon assez cruelle aux yeux de Morty. Et tout l'épisode ne fait que demander au public pourquoi continuez-vous à chanter les louanges de ce salopard. Et il le sera jusqu'au bout.
Mais pas que, parce qu'en fait, il y a cette logique-là, mais il y a aussi une logique, je pense, de s'attaquer. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a en même temps la voix de la raison, comme disait Thomas tout à l'heure. C'est est-ce qu'en fait, ils ont. Est-ce que le comportement de ces fans ne leur donne pas raison sur finalement leur vision de l'humanité, quoi? Et le truc, c'est que moi, ce que j'aime apprécier aussi dans cet épisode-là, même si c'est périphérique, c'est le fait que ils mettent une petite olive à la formule Marvel, en fait, en disant en gros c'était frais il y a 5 ans et maintenant vous faites chier, quoi. En gros, c'est la phrase de Rick. Et du coup, c'est intéressant en fait de voir une série très populaire actuelle. Taper sur une autre série très populaire sur laquelle en fait aucun autre objet culturel
vraiment,
aucun autre objet culturel dit qu'en fait se s'attaque en fait,
SNL un petit peu s'y est frotté dans des sketchs récemment un petit peu c'est très léger et ça fait longtemps que ça n'a plus la puissance que ça a eu.
En général ils le font avec comment il s'appelle, Hawkeye, qui apparaît au milieu de Faucon et qui fait des blagues sur son, donc c'est un peu du coup de coude, alors que là c'est plus une façon de s'attaquer à quelque chose qui a un fond de popularité et de dire mais vous le remettez pas en question tout simplement. Enfin, à un moment donné, voilà, il y a la même chose, enfin, même si encore une fois c'est périphérique, c'est il y a la même chose avec le personnage d'Obama qui est, bon, c'est le président, mais c'est de toute évidence Obama, même si on le cite pas comme ça. Et ça garde des drones et ce genre de choses, en fait.
Donc
le truc, c'est que je trouve ça revigorant en fait de voir une série de cette ampleur là en fait, de cette popularité là s'attaquer aux idées reçues, enfin tout simplement, quoi, aux trucs
je pense que elle s'attaquait déjà aux idées reçues dans les saisons précédentes, et ce qui est nouveau dans cette saison là c'est que je pense d'une certaine façon elle s'attaque à son propre public. En fait, il y a eu un post, je crois que c'était sur Reddit, qui a fini par devenir un mème, d'un gars qui expliquait à d'autres qu'il fallait avoir un QI supérieur pour pouvoir apprécier Rick and Morty à sa juste valeur. Et cette déclaration d'amour un peu gogol, il faut le dire, qui ne parlait que d'intelligence, elle a été reprise et mémisée. C'est-à-dire que des gens ont remplacé Rick and Morty par tous les shows possibles, imaginables, et toutes les bêtises. Bref.
Et, Happy days.
Voilà. C'est ça. Mais d'une certaine façon, en mémisant ce type qui se croyait supérieurement intelligent, d'une certaine façon, il faisait ce que Rick lui-même ou les créateurs de la série eux-mêmes n'auraient jamais hésité à faire l'épisode Pickle Rick que tu cites, qui est effectivement un des grands moments de cette saison-là. Ça vaut peut-être le coup pour ceux qui n'ont pas vu de résumer un peu le concept.
Oui, en fait, pour échapper à une séance de thérapie familiale, Rick se transforme en cornichon, mais du coup se fait un peu avoir par sa famille qui se rend compte du stratagème, donc lui pique le sérum anti-cornichon et il se trouve obligé de
survivre,
de passer par tout un tas de péripéties pour
comme il est l'homme le plus intelligent du monde, il s'en sort.
Il s'en sort, notamment en hackant des cafards, en tuant des rats.
Il
se crée un exosquelette et il finit dans une espèce d'ambassade pseudo-soviétique où il libère un tueur fou,
enfin
un
révolutionnaire,
ultra-violent qui est joué par Danny Trejo, qui s'appelle Jaguar.
Et on a à travers cet épisode, à travers tout l'épisode, un pur fantasme de toute puissance masculine. Mmh. On peut pas faire mieux. Quoi. Je démarre cornichon, je finis en gros maître du monde, ouais. Quoi, par la seule puissance de mon intellect et un peu de mes bras que je me suis construit. Et au bout du compte, il finit par, parce qu'il est bien obligé, par atterrir à cette séance de psychothérapie familiale. Et la thérapeute le flingue.
Oui.
Enfin, je veux dire, elle lui explique à quel point son intelligence est un fardeau pour cette famille et à quel point il s'en sert pour fuir ses responsabilités.
Elle le flingue, mais ça n'a aucun impact.
Et ça n'a aucun impact.
Avec cette série. Moi, je lui trouve un lien avec Seinfeld, personnellement, avec la fameuse règle qu'avaient imposée Larry David et Jerry Seinfeld. C'était no learning, no hugging. Les personnages n'apprennent rien, ils ne se prennent jamais dans les bras. Je trouve qu'on retrouve un peu cet esprit, ce mauvais esprit, clairement, dans cette série. Typiquement avec cet épisode-là, où ils ne retiennent rien
avec
de la thérapeute.
Avec ce niveau supplémentaire, qui est que pendant tout l'épisode, en tant que spectateur, tu jouis de ce que Rick est en train de faire, pour au bout du compte te retrouver aussi honteux et penaud que lui lorsque la thérapeute te balance ça, quoi. Parce que la question qui est posée par cet épisode, c'est en gros des créateurs à leurs fans, à leur public, c'est: on sait que vous êtes très intelligent, et alors? Vraiment, c'est le « et alors » qui est terrifiant. Parce que ce « et alors », il nous rend encore plus nihilistes, finalement, que les personnages nihilistes qu'on nous montre. C'est genre « qu'est-ce que t'as fait de ta vie, connard ?» avec toute ton intelligence.
Qu'est-ce que tu en as fait,
voilà. Et ça, ça nous renvoie à un Tyler Durden dans Fight Club, qui posait aussi cette question cruciale. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle la série est aussi populaire, et surtout le personnage de Rick dans toute sa saloperie, est aussi populaire, c'est parce qu'il représente vraiment l'état d'une génération. D'une génération suréduquée mais qui n'accède à rien et qui ne fait pas grand chose de sa vie et qui d'une certaine façon est un peu obligé de se réfugier dans une réelle apathie sentimentale, au même titre que Rick, hein, il est incapable d'avoir des relations humaines
et dans un fantasme permanent d'autres réalités
et de toute puissance qui finalement est une toute puissance sur un monde virtuel parce qu'il a aucun contrôle sur sa vraie destinée,
il n'a pas d'impact sur sa vraie vie. Stéphane,
il y a peut-être préciser deux choses pour les gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure, mais qui ne savent pas forcément exactement en fait comment fonctionne la série s'ils n'en ont pas vu, et on peut-être leur donner envie de manière un peu plus générale. En fait, il y a un truc qui est intéressant, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si ça s'inscrit dans la logique de surintelligence que les mecs doivent posséder pour regarder cette série-là, quoi. Mais c'est une série qui joue beaucoup avec les concepts de science-fiction, et qui joue avec des concepts de science-fiction qui existent en fait vraiment et qu'ils maîtrisent narrativement. C'est ça qui est intéressant.
Et qu'ils aiment, et ça se sent vraiment du coup dans la transformation.
C'est comme un espèce de Doctor Who en fait survitaminé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique où on va jouer avec tout un tas de concepts de science-fiction et le truc c'est que même pour justement les personnes qui sont non initiées à ces concepts-là, ils font en un temps record, ils te font comprendre les concepts et ils les utilisent et les surexploitent en fait, c'est-à-dire qu'ils vraiment ils les poussent à terme. On va dire 20 minutes par épisode, mais le truc c'est que voilà, t'as cette espèce de pistolet dans lequel Rick transfère son âme pour aller sur les multiples Rick en fait de la cité des Rick ou je sais pas quoi, etc. dans le premier épisode, c'est il entretue tous ces
avatars, enfin ces différentes apparitions, itérations
dans les autres univers, tout en prenant leur place à chaque fois et en fait en donnant le change auprès des autres. Et le spectateur est tout le temps en fait, il est jamais perdu.
Non.
C'est tout le temps pris en fait dans la blague. Pareil, il y a un épisode avec Jerry où ils vont se relaxer dans une
espèce de spa intergalactique. On peut pas mourir.
On peut pas mourir.
On peut se tuer mais on ne meurt pas.
Voilà, et il joue avec cette espèce de logique où en fait c'est possible d'y arriver. arriver à un moment donné quand je sais plus les deux anneaux se croisent ou il y a un truc comme ça, je sais plus ce qu'est quoi le truc. En fait, il y a un moment spécifique où
il y a un espèce d'attraction qui sort légèrement de la bulle qui protège les gens
et les mecs
peuvent mourir sur l'espace de quelques secondes.
Voilà, et les mecs créent avec un concept complètement dantesque en fait, ils créent en fait du drama en fait, de la narration en fait et du suspense en fait avec ce genre de choses. Encore une fois, en allant très très vite, en utilisant le concept à fond, quoi. Et donc ça, c'est hyper réjouissant parce que c'est le côté, entre guillemets, j'aime pas trop le terme pour cette série, loufoque, en fait, c'est-à-dire barré, en fait, où tu vas dire, en gros, c'est hyper réjouissant de les voir jouer avec ces concepts-là, comme t'en as plus vraiment, en fait, dans les séries télé.
Bien sûr.
Ces dernières années, à part Community, ce genre de choses.
Justement.
Voilà. Et il y a le deuxième truc, en fait, avec cette saison 3, qui est peut-être intéressant à signaler, parce que, en fait, on parlait de la thérapie familiale, tu donnais l'extrait de Pickle Rick. Mais je pense que toute la série, en fait, toute la saison en question, en fait, parce qu'on est maintenant installé avec chacun des personnages, parce qu'on connaît le gendre Jerry qui est le loser dont parlait Rafik, qu'on connaît la fille de Rick qui est
Summer,
la
fille de Rick, la mère de Beth,
voilà, qui veut vraiment être dans les Marty, dans les comment dire une émulation de son père, de son père parce qu'elle a des daddy issues, et chacun de ces personnages là, en fait, a ses propres épisodes à lui avec des conventions, on va dire, entre guillemets, de sitcom. C'est-à-dire, par exemple, Jerry sort avec une nouvelle...
une alien.
Voilà, qui est une alien, en fait, qui est une chasseuse. En fait, elle vient de la tête de chasseur et ça devient, d'un seul coup, il devient le bêta mâle qu'il a toujours été, mais en fait, c'est révélé par cette relation. T'as Beth, en fait, qui se retrouve confrontée à une action du passé, en fait, à un personnage qu'elle a laissé mourir, en fait, qui a été coincé dans...
Elle visite un monde que lui avait fabriqué son père, qui s'appelle Floopy.
Voilà. Dans lequel il y a un garçon qui a disparu,
qu'elle a laissé coincé un petit copain d'enfance,
ouais, qui était obligé de s'accoupler avec les créatures, du monde,
pour se nourrir, en mangeant leur bébé. Affreux.
Voilà. Et donc, en fait, ils croisent tous ces concepts de SF, en fait, avec le sitcom, avec la logique de sitcom, en fait, et en fait, du coup, ils rehaussent complètement, je trouve, la logique comique, en fait,
avec des particularités étonnantes qui, par exemple, parce qu'on est, quand je parle d'une génération. Des millénials, hein, puisque c'est eux qui font le public de Rick and Morty, ils sont aussi dans un post-modernisme pour le coup autodestructeur d'une certaine façon. Je pense que le public de Rick and Morty, c'est des gens qui voudraient désespérément croire et en même temps qui méprisent le premier degré, à la même façon que Rick méprise les gens qui sont heureux, pour lui ne peut être que le témoignage de leur stupidité, quoi. Et ce postmodernisme, en fait, la série essaie de le détruire. C'est presque un nihilisme du nihilisme, en fait. Et par exemple, le fait que les personnages secondaires se développent dans cette saison, ils se développent, tu remarqueras, uniquement lorsque Rick les a détruits psychologiquement, c'est-à-dire lorsqu'il leur révèle cruellement et crûment exactement ce qu'ils sont. Lorsqu'il dit à Jerry qu'en gros il est un parasite qui se nourrit essentiellement de sympathie,
de la pitié
des autres, et que l'autre l'accepte.
Et il fait, mais c'est vrai, je joue là-dessus. Enfin,
et tout d'un coup, il devient un personnage intéressant. Donc il y a aussi ce caractère révélateur de Rick. C'est triste à dire, mais c'est le héros d'une génération. il est tellement en phase avec l'état psychique de la civilisation occidentale aujourd'hui, que je pense que vraiment et
c'est quand ça le concerne aussi, ça c'est intéressant, parce que c'est pas que les personnages secondaires, c'est quand ça le concerne lui aussi, c'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, en utilisant les concepts de SF, il y a un épisode entier où en fait ils se rendent compte qu'ils ont plusieurs mémoires en fait de Morty, que Rick en fait avait extrait
justement pour pas
que Morty en fait
l'envole
quoi. Et du coup, en fait, ça révèle l'attachement qu'il peut avoir à son petit-fils, en fait, tout en étant
attachement qu'il perd lorsqu'on le dégage de cette toxine, parce qu'il y a donc cet épisode où, après avoir vécu une aventure absolument traumatisante, ils décident de se nettoyer de cette façon de toute leur angoisse.
Ils font une détox galactique,
donc on leur vire toutes leurs toxines et ils deviennent donc des personnages. Lui, il devient tout d'un coup un savant béat et heureux, et donc l'antithèse du Rick qu'on connaît, et il n'en a plus rien à foutre de sa famille. Tandis que Morty, dégagé de ses toxines, devient une espèce de psychopathe à la. Comment il s'appelle, le héros de ce roman des années 90 trader
de Bret Easton Ellis, d'American Psycho.
Et le fait qu'en tant que public, on comprenne exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est-à-dire que leur leur malheur est absolument nécessaire à leur condition, à leur fonctionnement de personnage. C'est assez extraordinaire. Et il n'y a qu'un public, comment dire, gavé de fiction et donc gavé aussi de tentations postmodernes qui puisse finalement comprendre une série comme ça. Alors là, je paraphrase le même au lieu de dire il faut un QI supérieur. Non, il faut un postmodernisme supérieur pour accepter de rentrer au premier degré dans Rick and Morty.
Avant de se quitter, avant de refermer cette émission, je me rends compte quand même qu'à mon avis, si les gens ne connaissent pas du tout Rick and Morty, tout ce qu'on a
compris
n'a aucun sens, absolument aucun sens. Mais c'est pas grave.
Je voulais juste noter un truc qui me semble important, c'est que voilà, c'est à la demande de Dan Harmon, je crois, trois épisodes clés de cette saison, Rick Munsing the Stone, donc le deuxième, Pickle Rick et Vindicators 3, donc des épisodes dont on a parlé, ont été écrits par des femmes. Et je pense qu'ils ont senti dans la saison 2 qu'ils avaient besoin de ce regard. D'une certaine façon, la psychothérapeute dont on a parlé tout à l'heure, elle ne pouvait leur être amenée que par un regard extérieur et féminin, parce qu'il faut imaginer les séances de travail de tous ces mecs complètement là. Nous, ça nous fait rire parce qu'on connaît la série et on imagine tous les trucs qu'on n'a pas vus. Voilà. Et imagine une nana qui déboule là-dedans.
La
tu vois, non, mais voilà. Et là, il est évident que la première chose qu'elle a pu penser d'eux se retrouve telle qu'elle dans l'épisode Pickle Rick.
Alors, avant de refermer cette émission, on ne va pas déroger quand même à notre règle des recommandations, même si Stéphane avait oublié, hein. T'avais oublié, Stéphane.
Non, mais des fois, j'y pense pas.
Des fois, t'y penses pas, voilà. On peut rester dans le domaine de la série animée, mais vous faites comme vous voulez, comme toujours. Qui c'est qui veut commencer ? Stéphane, je te tends
la perche. Écoute, je vais faire un peu une reco de voilà. Si vous avez absolument rien compris,
oui,
à tout ce dont on a parlé depuis 20 minutes.
Vous êtes encore là, pourtant.
Tout ce dont on parle depuis 20 minutes, en gros. Donc déjà, regardez les trois saisons de Rick et Morty. Et je vais renvoyer en fait à un site bien connu autour de cette table qui s'appelle Capture Mag.
Oh,
voilà, je me permets,
excellent,
voilà.
Excellent.
Sur lequel notre collaborateur et néanmoins ami Aurélien Noyer a fait un énorme dossier il y a 2 ans de ça en fait, à la fin de la saison 2. Il y a au moins 5 parties différentes. C'est hyper fouillé, hyper intéressant. Sur c'est les deux saisons en l'occurrence.
Oui.
Et donc si en fait vous avez envie de voir Rick et Morty, si la série vous plaît et que vous voulez un complément, c'est ce que j'ai lu de mieux et en l'occurrence c'est sur notre site. Voilà, donc permettez-moi de le citer. Voilà.
Je te permets. Rafik.
Moi j'aurais deux recos qui sont deux films sortis au tout début des années 70. Le premier c'est Catch 22 de Mike Nichols qui est un, comment dire, c'est très difficile d'en parler. C'est vraiment une ode à l'absurde. Et c'est pour le coup un film qu'on pourrait qualifier peut-être de nihiliste, qui se passe en Italie à la fin de la guerre, parmi des militaires complètement frappadingues. Et en gros, le seul type à peu près sain d'esprit de cette caserne, et c'est le seul à pas pouvoir se faire réformer. Parce qu'en gros, il faut être fou pour pouvoir avoir une chance d'être réformé. Ouais. Mais si t'es fou, tu vas aller faire la guerre. Donc bref, il y a tout un truc dans lequel il est prisonnier.
Peu, oui.
Et c'est un film qui a été un énorme échec et qui, je trouve, assez extraordinaire, avec un casting délirant qui avait coûté très très cher. C'est le réalisateur du Lauréat. Enfin, il sortait du succès du Lauréat. Donc je recommande vraiment ce film-là, dont je trouve que la structure, la façon de jouer avec la structure narrative de façon explicite renvoie justement à ce postmodernisme dont on parlait sur Rick and Morty, ou en tout cas l'annonce. Et le deuxième, qui est sorti 2 ans plus tard, c'est Abattoir 5, un film de George Roy Hill, qui suit les aventures, un peu complexes, d'un soldat, un survivant des bombardements de Dresde en 1945, qui se réfugie dans ses souvenirs, dans lesquels il a, a priori, la capacité de voyager dans le temps. Et je peux pas vraiment spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a tout un jeu d'absurdité qui va se faire dans ces multiples retournements de spatio-temporel, qui va nous révéler quelque chose sur la structure même de notre univers. C'est un film de science-fiction à la base, mais ça, on le découvre qu'au fur et à mesure. Et là aussi, il y a des idées dans ce film-là qui annoncent quelque part un peu Rick and Morty.
Steph, tu voulais rajouter quelque chose? Non,
je voulais faire un recours sur Retour vers le futur. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, voilà, qui est une source d'inspiration aussi.
Qui est quelque part une source d'inspiration dans les commentaires. C'est vrai qu'on
n'en a pas parlé. En fait.
Mais genre, aucun personne autour de la table n'a vu les films. Tant
pis. Retour vers le futur,
non, aucun des trois. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Julia, à la technique. Merci à l'antenne. Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.